Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
L'information va vous plaire. En accord avec les autorités, le match va pouvoir aller à son terme en votre présence.
Et quel match hier soir à Roland-Garros, le roi Nadal détrôné par le numéro 1 mondial Djokovic qui prive l'Espagnol de finale après un match de folie. Le public qui a pu assister jusqu'au bout à ce match grâce à une dérogation exceptionnelle au couvre-feu. Pas de dérogation en revanche pour la fête improvisée sur l'esplanade des Invalides avec l'intervention des forces de l'ordre à 23h30 pour évacuer les lieux. Dans l'actualité, un cluster dans une école des arts à Strasbourg, 4 cas positifs, 43 cas en cours d'identification. En Seine-Saint-Denis, la vaccination marque le pas et on peut se faire vacciner sans rendez-vous aujourd'hui sur le parking d'un centre commercial. Nous serons sur place. La mobilisation des forces de gauche cet après-midi partout en France avec une marche des libertés pour dire non à l'extrême droite. Mais les leaders vont défiler en ordre dispersé. On y reviendra avec mon invité, le politologue Pascal Perrineau, à qui nous demanderons aussi de quoi témoigne cette gifle reçue cette semaine par Emmanuel Macron dans la Drôme. Drôle de climat politique à un an de la présidentielle. Le coup d'envoi de l'euro avec la victoire 3-0 de l'Italie face à la Turquie hier soir en match d'ouverture. La météo, et ça ne vous aura pas échappé, c'est l'été avant l'été avec des températures qui vont grimper jusqu'à 34 degrés dans le sud, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Ça y est, c'est donc parti pour un mois de foot avec le coup d'envoi de l'euro hier soir à Rome. Un euro qui va se dérouler à travers 11 pays européens. Un vrai défi logistique en pleine crise sanitaire.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cela aurait pu être son 14e titre sur la terre battue de Roland-Garros. Mais voilà, le roi Nadal a été détrôné hier soir par plus fort que lui, le numéro 1 mondial Djokovic, au terme d'un match totalement fou qui a même donné lieu à une dérogation au couvre-feu pour que le public reste au-delà des 23 heures pour voir ces deux champions qui ont tout donné, on peut le dire, Axel May, pour accéder à la finale.
Oui, deux légendes sur les cours pour un match totalement historique, légendaire, car cette douce musique là que vous entendez, ces cris de rage de Rafael Nadal, eh bien, en principe, ils accompagnent chaque balle de Rafael Nadal jusqu'à la finale. Là, ils se sont arrêtés lors de la demi-finale, 14e demi-finale jouée par Nadal. Cette fois-ci, ça lui aura été fatal. Le roi de la porte d'Auteuil a été battu par le joker Novak Djokovic. 4h11 de combat, 4-7, 3-6, 6-3, 7-6, 6-2. À la fin de ce combat qui s'est terminé, 20 minutes après l'heure du couvre-feu, le public en redemandait. Écoutez cette bande de copains venus exprès de Montpellier.
Battre Rafael Nadal à Roland-Garros, c'est arrivé que deux fois, donc là c'est la troisième fois. En demi-finale, c'était jamais arrivé, donc c'est exceptionnel.
C'est un pan de l'histoire du tennis qui était devant nous, quoi, devant nos yeux. Quoi.
Exactement, on s'est régalé. Bon, un peu déçu également, j'étais pour Rafa, mais bon, on a eu un spectacle, on s'en souviendra dans 10 ans. Et franchement, c'était une soirée incroyable.
Voilà, alors Rafael Nadal, qui était évidemment un peu abattu après cette défaite, a même laissé entendre en conférence de presse que peut-être qu'il ne participerait pas au prochain tournoi du Grand Chelem, Wimbledon. Quant à Djokovic, il va tenter de remporter un deuxième tournoi de Roland-Garros après celui de 2016. Ce sera demain face au jeune grec de 22 ans, Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas qui avait été battu par ce même Djokovic l'an dernier. En demi-finale.
Voilà qui promet encore une belle bataille. Merci Axel May au programme aujourd'hui. La finale dames à 14h entre la Russe Anastasia Paliouchenkova et la Tchèque Barbara Krejčíková. Et pourquoi pas aussi des Français sacrés car la paire Herbert Mahut est en finale du double homme. Et donc la finale dames, on me le souligne, c'est à 15h. 14h, c'est pour les hommes demain. Alors pour revenir au match hier soir, l'organisation a donc demandé in extremis une dérogation pour que le public reste jusqu'au bout du match. Dérogation couvre-feu donc accordée et on l'a vu exceptionnelle. En revanche, ambiance beaucoup plus agitée sur l'esplanade des Invalides, avec un rassemblement improvisé de plusieurs centaines de jeunes et l'intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer cette esplanade. Du coup, certains se disent qu'il y a peut-être deux poids, deux mesures, Yasmina Katou.
Et oui, puisque à Roland-Garros, in extremis vers 22h45, alors que le public commençait à évacuer le cours Philippe Châtrier, le speaker annonce une dérogation exceptionnelle qui aurait été accordée au sommet de l'État.
En accord avec les autorités nationales, le match va pouvoir aller en son terme en votre présence.
Explosion de joie des spectateurs sur place qui ont pu assister à la fin de ce match historique. D'une seule voix, avant que le match ne reprenne, le public s'est mis à chanter la Marseillaise et à scander « Merci Macron ». Et au même moment, à quelques kilomètres sur les Invalides, des centaines de personnes bravaient le couvre-feu en pleine fête sauvage, majoritairement des jeunes, sans masque ni distanciation sociale. Les forces de l'ordre sont intervenues pour évacuer les lieux. Un deux poids, deux mesures, dit Gilbert Collard sur Twitter, et les réactions fusent depuis hier soir. Sur Twitter également, Florian Philippot parle d'un couvre-feu pour les gueux, d'une dérogation pour les nantis.
Yasmina Katou, sur le front de l'épidémie, moins de 4000 nouveaux cas enregistrés hier en France, moins de 2200 patients en réanimation. Pourtant, la vigilance reste de mise avec un cluster détecté en Alsace à la Haute École des Arts à Strasbourg. Déjà 4 cas positifs, 43 cas en cours d'identification. Un cluster lié au variant indien, une campagne de dépistage et de vaccination qui va être lancée. La vaccination, vous le savez, qui marque le pas ces derniers jours avec de nombreux créneaux qui ne trouvent pas preneur, c'est particulièrement le cas en Seine-Saint-Denis, d'où l'idée pour les autorités sanitaires d'aller au contact de la population, comme par exemple ce matin sur le parking du centre commercial de Rosny-sous-Bois. Alors, est-ce que les gens qui viennent faire leurs courses au Zoé-Palier sont prêts à jouer le jeu en se faisant vacciner sans rendez-vous ?
Oui, ils sont même ravis pour la plupart. En venant faire une virée shopping ce matin, ils n'imaginaient pas tomber sur des barnums de vaccination ni sur les bénévoles qui viennent les chercher juste à la sortie des magasins.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous faire vacciner jusqu'à présent, c'est le moment, on est là.
On verra ça après.
C'est sans rendez-vous.
En sortant des courses.
Très bien, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Beaucoup de caddies donc dans la file d'attente. Jean vient d'acheter de quoi refaire sa garde-robe et il repart avec une dose de Pfizer.
Ce soir, quand je vais rentrer, ma femme va apprendre la bonne nouvelle. C'était un grand soulagement parce qu'il attendait ce moment.
Et Jean, ça fait 3 mois qu'il essayait d'avoir un rendez-vous sans y parvenir. Même scénario pour Delguidon dans la file ce matin.
Comme nous, on ne connaît pas trop l'informatique, c'est ça le problème. Des fois, ils posent des questions qu'on ne sait pas répondre. Et c'est mieux direct, quoi.
Et la fracture numérique, c'est ce qui explique notamment le retard de vaccination dans le département. Floréal Mangin est chargé de projet.
Pour les moins de 55 ans qu'on cible aujourd'hui, là, sur cette opération, on est à 15% en Seine-Saint-Denis contre 20% en France entière. Et donc, on veut éviter que cet écart se creuse.
Voilà, 15% de personnes vaccinées parmi les moins de 55 ans. Une 60aine de piqûres ont eu lieu ici depuis ce matin. Les équipes comptent sur la pause du déjeuner pour attirer encore plus de monde. Objectif 500 vaccinations d'ici à demain soir.
Merci beaucoup Zoé Palier. La mobilisation des forces de gauche cet après-midi partout en France pour une marche des libertés pour dire non à l'extrême droite, à l'appel des partis de gauche de la France insoumise en passant par le PC ou encore le PS. Manifestation aussi à l'appel des syndicats et de plusieurs associations comme SOS Racisme. Une mobilisation qui pourrait être l'occasion pour la gauche d'afficher son unité, sauf que ses leaders vont défiler en ordre dispersé, Claudia Bertram.
L'actualité récente nous montre qu'on a encore plus raison de faire ça, estime le député insoumis Éric Coquerel, co-initiateur de l'événement, en référence à la vidéo du youtubeur Papacito et à la gifle reçue par Emmanuel Macron. Mais l'organisation de cette marche a été laborieuse. Certains partis politiques rechignent d'abord à signer l'appel. Finalement, ils marcheront tous, mais chacun dans son coin. Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon et le patron des Verts, Julien Bayou, défileront à Paris. Son homologue PS, Olivier Faure, a choisi Avignon, pendant que le communiste Fabien Roussel sera à Lille. Une dispersion qui illustre la division des forces de gauche. Division encore accentuée par les propos polémiques de Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier, liant terrorisme et élection présidentielle que tout le reste de la gauche a condamné. Bref, un insoumis ne s'en cache pas. Cette manifestation commune n'augure pas d'une union de la gauche. Certains viennent en traînant des pieds.
Claudia Bertram, mais sur cette marche des libertés, on demandera son avis justement au politologue Pascal Perrineau qui sera mon invité dans quelques minutes sur Europe 1. Depuis hier, une nappe de 35 km d'hydrocarbures a été repérée au large de la Corse, signe probable d'un dégazage d'un navire qui pour l'instant n'a pas été identifié. Nappe qui se rapproche des côtes à moins de 3 km. Antida Sitores de l'association Surfrider est au micro de Laura Tautchanov.
Nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il n'y a pas eu flagrant délit et il pourrait y avoir une impunité par rapport à cette pollution s'il n'y a pas de poursuite, si on n'arrive pas à remonter jusqu'à l'auteur de cette pollution. Ça pourrait être un pétrolier qui aurait lavé ses cuves. Comme on est sur une matière qui est du fioul lourd, lorsqu'elle va arriver jusqu'aux côtes, elle va se gorger d'eau, donc augmenter en volume, et il peut y avoir l'équivalent d'une petite marée noire. C'est illégal. Softrider va, comme d'habitude, porter plainte. On est à la 20e, plus de 20 affaires de dégazage, certaines en Méditerranée, certaines sur la Manche. On continue justement notre combat pour resserrer le faisceau de culpabilité sur le navire qui serait l'auteur de cette pollution.
Et notez que le préfet de Haute-Corse, évidemment, recommande aux habitants de ne surtout pas se rendre sur les plages proches de cette zone et de ne surtout pas prendre dans la main ces boulettes d'hydrocarbures.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, l'ouverture depuis ce matin des bureaux de vote en Algérie pour les législatives. Et une question, est-ce que les électeurs seront au rendez-vous vu le climat avec l'arrestation de nombreux opposants ces dernières semaines? Et direction l'Algérie avec l'ouverture depuis ce matin des bureaux de vote pour les législatives dans un climat très lourd alors que de nombreux opposants ont été arrêtés ces dernières semaines. Et même si trois leaders du mouvement Irak ont été libérés hier soir, Mathieu Bock, vous êtes dans un bureau de vote à Alger. L'enjeu, c'est de savoir si les électeurs vont se déplacer pour aller voter. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous depuis ce matin ?
Eh bien, les chiffres de la participation à la mi-journée ne sont pas encore connus, mais un président de bureau de vote me disait tout à l'heure qu'on était bien en dessous des chiffres habituels. C'est vrai que les électeurs ne se bousculent pas devant les urnes. Dehors, les passants préfèrent aller faire leurs courses au marché juste à côté, sans même regarder les affiches électorales.
Je ne pense pas aller voter aujourd'hui. D'ailleurs, je ne me sens pas concernée par ça. Je ne suis pas quelqu'un de politisé. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. C'est quelque chose de très important, mais moi, ça ne m'intéresse pas.
Je ne vais pas voter. Parce que, comme disait Coluche, si le vote servait à quelque chose, ça serait interdit il y a longtemps. Il y a 23 000 candidats et c'est très absurde. Il n'y a pas de programme, personne n'avait un programme. Je ne pense pas que ça va servir au total à quelque chose. Mais les gestes qui peuvent changer la politique ou le pays sont interdits. Je pense qu'il y a encore des gens du Hirak en prison. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus.
Alors pour les dernières législatives, il y a 4 ans, le taux de participation était de 35%, mais cette fois-ci, il pourrait être bien inférieur. La déception de la reprise en main du Irak par le pouvoir a découragé beaucoup d'Algériens de se déplacer. 24 millions d'électeurs sont invités à voter aujourd'hui et les premiers résultats devraient commencer à tomber à partir de demain dimanche.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 en Algérie. On revient au sport avec, il y a quelques minutes, le Français Luca Vanache qui remporte le tournoi junior de Roland-Garros. La finale opposait deux Français. Il a battu son compatriote Arthur Fils. Et puis le coup d'envoi hier soir de l'Euro 2020. Et vous le savez, coup d'envoi donné à Rome avec le match d'ouverture et l'Italie qui l'a emporté 3-0 face à la Turquie. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Un temps tout simplement estival, Valérie Darmon.
Et tout à fait, le beau temps est un petit peu plus tardif de la Bretagne et de la Normandie et Hauts-de-France. Mais voilà, dès maintenant, les conditions météo s'améliorent nettement avec le retour de très très belles éclaircies plus ou moins larges et des températures de 21 à 26 dans les terres. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, le temps est très chaud et très lourd. Des bourgeonnements nuageux se produisent sur les reliefs avec un risque d'orage sur les Pyrénées. Température entre 25 et 34 de la côte basque à l'arrière-pays languedocien. Des pays de la Loire au bassin parisien, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, le soleil s'impose depuis ce matin. Et vos thermomètres affichent 25 à 33.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi, Fabienne Lemoyle.
À suivre, on va revenir sur le drôle de climat de cette semaine entre les propos complotistes de Jean-Luc Mélenchon, la gifle portée à Emmanuel Macron cette semaine. De quoi cela témoigne un an de la présidentielle ? Que le débat n'est plus possible. Le président dit qu'il ne faut pas faire dire à cet acte imbécile plus qu'il ne faut lui faire dire. On va demander au politologue Pascal Perrineau ce qu'il en pense. Mais quel drôle de climat un an de la présidentielle entre les propos complotistes, même s'il s'en est défendu, de Jean-Luc Mélenchon sur un incident grave qui va forcément arriver avant le scrutin, puis cette gifle contre Emmanuel Macron mardi dans la Drôme. Bonjour Pascal Perrineau.
Bonjour.
Politologue, professeur émérite à Sciences Po, auteur d'un tout récent « Que sais-je sur le populisme ?» ô combien éclairant dans cette période. Qu'est-ce que cela dit du climat politique actuel? Je pense notamment à cette gifle, même si Emmanuel Macron disait lui-même cette semaine qu'il ne faut pas faire dire à cet acte imbécile et violent plus qu'il ne faut lui en faire dire. Est-ce qu'il a raison d'ailleurs de temporiser?
On comprend de son point de vue qu'il temporise, qu'il cherche à marginaliser cet acte qui pourtant a été un acte qui a beaucoup marqué les Français. Ça n'est pas tous les jours qu'un quidam lève la main sur le président de la République pour le gifler. Donc je ne crois pas qu'il faut ou qu'il faille minorer ce genre d'acte qui a une portée symbolique extrêmement forte, et ça doit être resitué dans un contexte qui est tout de même un contexte de beaucoup de violence. Violence dans les mots, violence dans les actes, violence symbolique, violence réelle. On peut donner quelques exemples. Regardez comment les dernières semaines et les derniers mois ont été ponctués d'affaires parfois terribles de violences entre adolescents. Comment les violences vis-à-vis des forces de l'ordre se sont beaucoup développées. Comment les violences vis-à-vis des pompiers, qui pourtant sont, c'est la profession la plus aimée en France. Et bien maintenant, être pompier dans certains quartiers, c'est un métier qui est devenu dangereux. Donc les violences, et je ne parle pas bien sûr de la violence terroriste qui est là et qui rôde. Donc c'est dans ce contexte de violence qu'il faut comprendre cela. La société française est une société qui, sous cet aspect, est une société qui ne va pas bien, et où on a l'impression parfois que moins il y a d'idées, plus il y a de violence, comme si la société s'énervait, était à la recherche d'un centre de gravité, d'un véritable débat démocratique, et ne le trouvait pas.
Ça veut dire, si je vous entends bien, Pascal Perrineau, qu'on n'est plus capable de débattre. On parle de ces actes qui se multiplient, qui pourraient faire sourire. Par exemple, François de Rugy, tête de liste de la majorité présidentielle pour les élections régionales en Pays de Loire, enfariné par une jeune femme alors qu'il était en terrasse hier. Il a déposé plainte et il dit justement sur Twitter « Le débat toujours, les agressions physiques jamais ».
Voilà, on a l'impression de plus en plus que, faute de trouver les mots pour dire ses espoirs, mais aussi ses inquiétudes, éventuellement ses colères, et Dieu sait si la société française est en colère, eh bien, faute de trouver les mots, on passe à l'acte. On cherche à disqualifier l'autre. Vous savez, dans une démocratie, il ne devrait pas y avoir d'ennemis que l'on a envie de ridiculiser, que l'on a envie de salir ou que l'on a envie de frapper. Il ne devrait y avoir que des adversaires avec lesquels on débat. Eh bien, pour l'instant, la société française a beaucoup de mal à trouver cette voie démocratique du débat, et c'est un peu inquiétant, à quelques encablures des régionales et des départementales, mais surtout de la grande échéance présidentielle de l'année prochaine.
Justement, ça préfigure quoi pour la présidentielle? Vous avez dit cette semaine quand même des mots très forts, qu'on se dirigeait, c'est ce que disent les sondages, vers un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, mais vous l'avez traduit en disant « on va vers un second tour qui sera l'expression de deux rejets, de deux haines ».
Oui, vous vous rendez compte, d'habitude, dans les seconds tours, sous la Ve République, il y avait deux hommes qui s'affrontaient, en 2007 un homme et une femme, avec chacun un projet, il y avait la gauche, il y avait la droite. Tout cela est en voie de disparition, et les Français s'orientent vers un second tour étrange, un second tour Marine Le Pen-Macron. Ça a le temps de changer dans les mois qui viennent, mais pour l'instant... c'est cela la situation. Et au fond, avec un nombre impressionnant d'électeurs qui iraient voter en faveur de Marine Le Pen pour rejeter Emmanuel Macron, et vice-versa, un vote pour Macron qui serait avant tout basé, comme il l'avait été d'ailleurs en 2017, sur le rejet de Madame Le Pen. Et je crois que une société mature démocratiquement ne construit rien de durable, rien de solide sur des votes qui sont excessivement chargés en rejet, en ostracisme.
Et sans adhésion.
Je crois qu'il y a... Voilà, et sans adhésion. Vous vous rendez compte, si on élit un président ou une présidente et que derrière, au fond, il y a le refus de celui ou de celle que l'on a écarté, c'est pas très positif pour les années du quinquennat qui s'ouvrira l'année prochaine.
Alors, il y a un mot qui revient. On parle d'hystérisation du débat politique. J'ai déjà envie de savoir si vous êtes d'accord avec ce terme. Et la faute à qui ? Aux réseaux sociaux ? À la coupure qu'il y aura entre la France d'en haut et la France d'en bas ?
Oui, les réseaux sociaux alimentent beaucoup cet énervement général de la société française. Ces réseaux, parfois, ça peut être le meilleur, mais c'est assez souvent le pire en matière politique. Et c'est vrai que ça ne participe pas de la structuration d'un débat démocratique. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a tout de même un déficit impressionnant de corps intermédiaires. Comment voulez-vous organiser un débat digne de ce nom sans véritable parti implanté dans la société, sans des médias reconnus, vérifiant leurs informations solides, sans intellectuels qui ne font pas de la démagogie. C'est au fond cela que la société française cherche confusément. Et pour l'instant, faute de corps intermédiaires, qu'est-ce qu'on a ? On a en haut de la pyramide un président qui est censé être tout puissant alors qu'il ne l'est pas. Et en bas, des citoyens en colère, isolés les uns des autres. Il y a toutes les conditions pour que le débat devienne quelque peu hystérique.
Juste une dernière question. Le temps nous est un tout petit peu compté, Pascal Perrineau. Mais justement, vous parlez de corps intermédiaires. Il y a cette marche des libertés pour dire non à l'extrême droite. C'est son intitulé. À l'appel de tous les partis de gauche de la France insoumise, passant par le PS, avec aussi des associations, des syndicats. Les leaders vont défiler en ordre dispersé. Est-ce que c'est ça la réponse pour le dialogue ?
C'est un vieux... Bon. Ce genre de mobilisation, c'est un vieil héritage de la gauche qui, en particulier, lorsqu'elle doute d'elle-même, se rassemble contre un adversaire. Et l'adversaire rêvé, c'est ce que certains appellent le fascisme, la mobilisation contre le fascisme. Mais moi, ce qui me frappe dans cette mobilisation, c'est qu'elle a mis énormément de temps à accoucher, qu'elle tente de rassembler des organisations qui, sur le terrain, ne sont d'accord à peu près sur rien et sont divisées. Il suffit de le voir aux élections régionales. Il n'y a à peu près dans aucune région, sauf exception, de gauche véritablement unie. Il y a des gauches, comme le disait l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, de plus en plus irréconciliables. La seule conciliation qu'il trouve, c'est de se retrouver pour battre le pavé des villes françaises contre l'extrême droite.
Merci beaucoup Pascal Perrineau, je rappelle politologue, professeur émérite à Sciences Po, et je rappelle donc ce que sais-je sur le populisme à lire absolument. Merci d'avoir partagé avec nous votre analyse ce midi sur Europe 1.
Merci à vous.
Et puis vous le savez, après l'heure, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Gros plan sur le défi logistique de l'euro avec ces 11 villes visitées pour cet euro dont le coup d'envoi a été donné à Rome hier soir.